Donc voilà, aujourd'hui notre sujet va nous porter sur la communion fraternelle. Mais on va voir un texte aussi qui nous permet de voir la Sainte Cène, parce que je vais vous montrer comment ces choses en fait sont liées. Mais avant d'aller plus loin, juste pour vous donner une petite anecdote de l'importance de se sentir bien et même accueilli. Comme je suis père de 4 enfants, j'ai eu le temps de passer des heures et des heures aux urgences pour différentes raisons. Quelque chose cassé, quelque chose brisé. Bon, ça c'est la vie des parents. Alors, peut-être vous trouverez ça marrant, mais et moi je trouve marrant en fait. Le moment où j'ai eu la meilleure accueil dans une urgence et tout s'est vraiment passé, c'était en Italie. Vraiment. C'était organisé. En fait, on a pris un numéro et puis tout était affiché. Et puis on attend. Bon, on a quand même attendu 2 heures, mais c'était avec notre fille. Et ben, quand on était accueilli, c'était sourire. Et ben, même quand on est passé voir les urgentistes, ben ils parlaient de l'Amérique. J'avais même l'impression qu'ils voulaient draguer notre fille, mais ça c'est autre chose. Tellement c'était chaleureux. Mais bon, après, donc on est parti, on était content. On était prêt à manger un pizza, je pense. Bon, juste pour vous dire que l'accueil, ça compte. Et quelque part aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, parfois, on arrive à l'église et parfois, c'est un peu comme arriver aux urgences parce que la vie est dure et parce que on a reçu les coups au cours de la semaine. Et parfois, c'est pas la chose la plus simple. Quand on arrive pour Dieu et puis il y a cette chose qui peut être un accueil, mais qui peut être aussi un obstacle. Et cette chose, c'est l'Église. L'Église. On veut être accueillant. On veut être une Église fraternelle parce que ça fait partie de l'ADN. Et donc, j'aimerais bien voir cela. Et parce que ça me parle, ça me convainc aussi de mes propres défaillances. Et je pense que ça peut nous encourager tous dans ce domaine. Donc, premièrement, on va voir un passage où ça n'allait pas. Parce que souvent, quand on voit les erreurs des autres, ça nous encourage. Et puis aussi, ça nous aide aussi à y voir clair. Et deuxièmement, dans cet mauvais exemple, on va voir une solution que Paul pose. Et cette solution, en fait, c'est ce que nous, ça revient à ce que nous appelons la Sainte Cène. Donc, ça nous permet justement d'en parler afin de voir ces dernières recommandations sur le même sujet. Donc, si vous avez votre Bible, merci de tourner. D'abord, en Actes, chapitre 2, verset 42, parce qu'il faut quand même encadrer le sujet dans peut-être le verset par excellence qui décrit un peu le fonctionnement de l'Église. C'est Actes chapitre 2, verset 42. C'est le contexte, c'est le jour de Pentecôte. Et après avoir prêché, baptisé 3000 personnes qui sont sauvées, l'Église commence à s'organiser. Et c'est intéressant de commencer là parce que, regardez, ils disent, en parlant de l'Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, le départ de l'Église était assez simple. Et les choses que nous trouvons toujours, une persévérance dans l'enseignement. Donc, on va garder ça pour notre dimanche. Mais deuxièmement, la communion fraternelle. Et donc, juste par le fait que ça soit une deuxième chose mentionnée, nous voyons l'importance. Fraternité. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ parce que c'est lui qui a pris notre place, c'est lui en fait qui nous a réconciliés à Dieu le Père. Nous sommes donc grâce à ce qu'il a accompli sur la croix, grâce à cette réconciliation, maintenant nous sommes entrés dans une famille qui est beaucoup plus large que 22 rues de l'Hirondelle. Hein. Ça englobe tout. Enfin, pas tout, enfin, toutes les églises qui croient en Jésus-Christ, bien sûr. C'est une famille immense, mondiale. Et donc, c'est quelque chose qui continue. Aussi, la fraction du pain, souvent, on a l'impression que ça parle de la Sainte Cène, mais à cette époque, ça parlait surtout du fait qu'ils se réunissaient de manger ensemble et de prier ensemble. Donc, ils se réunissaient dans les maisons et ils participaient à cela. Alors, revenons dans notre contexte, dans notre grand passage qui est en 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que là, le temps passe, l'Église est formée, Paul est déjà passé une première fois en mission. Et cette Église est une Église qui a beaucoup de dons spirituels, qui a eu les enseignants comme l'apôtre Paul, comme Apollos, des gens, la théologie ne manquait pas. Ils avaient beaucoup de choses de leur côté, mais comme toute église, on est rempli des gens remplis du Saint-Esprit, mais aussi des gens qui travaillent, qui marchent toujours dans la voie de la sanctification, c'est-à-dire que nous sommes toujours imparfaits pécheurs. Et ben, on amène avec nous aussi tous nos fautes et ici, il y avait des problèmes. Alors, le contexte maintenant, c'est culture grecque. Alors, culture grecque, c'est une culture très hospitalière. En fait, de ne pas s'inviter, de ne pas accueillir les gens chez toi alors que effectivement, ils frappent à la porte, c'est vraiment un déshonneur. C'est vraiment regarder. C'est mal. Alors, donc, c'est toute notre culture où on invite et ça fait vraiment plaisir, mais l'Église est aussi composée des gens des différents stades sociaux. Donc, on pense que ça serait chez quelqu'un qui a la maison la plus large, donc on accueille les gens, mais premier jour de la semaine qui est un jour de travail, n'oubliez pas, à l'époque. Donc, on quitte le travail, on mange ensemble parce que tout le monde a faim. Et puis, on a nos services. Et c'est donc dans ce contexte que nous pouvons lire, et on va lire les versets 17 à 22 ensemble. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. On va faire cette petite pause-là. Alors, le problème à Corinthe, c'est un problème, je trouve, assez simple, assez normal dans les affaires des hommes, c'est qu'il y a des gens qui ont plus que d'autres. Il y a, Paul il dit clairement, il y a des divisions, il y a des gens qui ont beaucoup, donc ils amènent pas mal de nourriture et qui mangent. Et là, on parle même de des gens qui sont ivres à la fin de la soirée. Alors, je ne sais pas de quel genre d'études bibliques ils avaient pendant ça, mais ça ne serait pas génial, je pense. En plus, il y a ceux qui viennent qui n'ont rien. Dans la même assemblée, à cette époque, il est tout à fait possible qu'il y a des esclaves, il y a des gens donc affranchis qui travaillent dur toute la journée, qui peut-être n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui s'assoient à table avec des chefs d'entreprise, des gens riches. Et donc, cette mixité sociale sera déjà un atout pour ceux de l'extérieur s'il n'y avait pas cette manifestation de l'égoïsme total. Et pour cela, on voit que même ceux qui ont le petit, qui arrivent, qui travaillent dur comme tous les autres, et qui s'assoient à table et qui n'ont rien, on voit une insulte. Et je pense, je lis peut-être sous les lignes, que cette frustration de Paul, eux aussi, les gens pour lesquels Christ est aussi mort, ceux aussi qui sont venus, qui ont part à la table de Christ comme tout le monde, bien sûr, il ne faut pas qu'ils partent comme ça, comme s'ils n'étaient pas à haut niveau. Et donc, ce qu'on voit, c'est que depuis Actes 2, 42, ce premier verset, et puis ça, ce qu'on a, c'est qu'ils ont tordu le sens d'une véritable bénédiction. La bénédiction, c'est l'assemblée. En fait, nous sommes une bénédiction les uns pour les autres, et le temps qu'on passe ensemble, le temps qu'on s'édifie, comme, comme j'ai vu les photos du groupe des femmes, j'étais pas là, mais j'ai vu des photos, les sourires, les temps passés ensemble, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et justement, quand on fait une table au milieu et les gens parlent et on a même les plats, il y a un partage. Et ça, c'est effectivement une bénédiction dont on a besoin. Et donc, avec ça en tête, Paul, il dit que c'est pas la manière d'agir. La communion fraternelle est en fait un partage. Au sens propre du mot, c'est un partage. Mais dans le contexte de l'Église, si vous voulez, c'est pas juste un partage, parce que, soyons honnêtes, tout le monde peut partager. Même au travail, pendant la pause déjeuner, quelqu'un peut apporter quelque chose, un autre peut, vous pouvez faire une table, vous pouvez partager. C'est pas la même chose. Parce que, dans l'Église, le partage est élevé à un sens familial, mais pas le sens familial où il y a des anciens querelles entre les membres de la famille, non. C'est la fête familiale de rêve, le fait que Dieu est lui-même, c'est lui qui préside sur la table, tout le monde est invité, bien sûr il y a égalité, mais il y a aussi ce sens d'être aimé et aimer, réconciliation dedans. Donc, parce que tous sont là, rachetés par le sang de Christ. Et donc, la potentiel de s'encourager, s'édifier est énorme. Ça, c'est pourquoi, verset 17, Paul disait, en faisant cette recommandation, je ne vous loue pas, c'est que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est que lorsque il y a ce moment, il est tout à fait possible de s'édifier et devenir meilleur dans ce sens-là. On a même, je dirais, une opportunité, une occasion justement de travailler, de faire un ministère, d'édifier les uns les autres pour que normalement, quand on quitte notre rassemblement, on est mieux de quand on est arrivé. C'est le but au moins. Et c'est nos prières d'ailleurs. C'est pour ça que nous nous réunissons avant le culte pour prier. Parce que on veut vraiment donner toutes les chances de notre côté pour le faire. Alors, donc, ça c'est la raison pourquoi Dieu veut donc que l'Église ne soit pas une production, un spectacle. Ça n'était jamais le cas, mais c'était un moment de partage. Et il y a aussi un autre aspect spécifique à cette situation. Il y a un verset un peu frappant. On dirait que c'est dit un peu hors du contexte, mais je crois que c'est vraiment bien dans le contexte. C'est ce verset 19. Regardez bien. Il dit, il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Alors, tranche comme verset. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que Dieu utilise même ces moments pour montrer le cœur des gens. C'est-à-dire, dans ce contexte, il y avait un petit problème d'égoïsme. Peut-être même une certaine arrogance vis-à-vis de son statut social. C'est tout à fait possible. Alors, Dieu a permis une mauvaise situation, donc où il y a même conflit. Et conflit, pourquoi? Pour que ce problème soit évident, pour qu'il soit manifesté. Même aussi, pas juste du point de vue négatif des controverses, mais du point de vue positif aussi. Pour voir justement pour ceux qui sont de bon caractère, ceux qui sont remplis de l'esprit, justement, qui vont en fait donner une main, qui vont peut-être partager, qui vont apporter une réponse spirituelle. Hein. C'est un moment pour justement ceux qui sont affermis dans la foi de se lever et aider les uns les autres à avancer. Hein. Et donc, c'est important de savoir. En fait, Paul, plus tard, il va écrire à Timothée, qui était pasteur à... j'ai malheureusement pas en slide. Donc, 1 Timothée 4, 1 Timothée 5, verset 24. Timothée qui était... qui dirigeait une église à Éphèse. Et Paul dit ceci. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui arrivent et effectivement, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le cas qu'on appelle un loup, quelqu'un vraiment, il faut se méfier un peu. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour mettre le trouble. Alors, là, ça c'est évident. Mais il y a d'autres personnes, peut-être un peu comme dans ce verset, peut-être ils sont des gens de bien, peut-être ils n'ont jamais vraiment compris, mais en agissant un peu mal avec le temps, ça arrive et ça donne la place à l'Église de corriger ces endroits-là. De la même manière, il y a les gens qui... ils sont bons et on le reconnaît tout de suite. Il y a d'autres personnes qui sont plus retirées, plus réservées, mais leur bon caractère, le travail que le Saint-Esprit fait en eux va se faire voir, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, dans ce genre de situation, Dieu aide justement à nous faire voir les différents dons et... aussi parfois les différents problèmes. Alors, donc, c'est important pour l'Église d'avoir les moments où nous pouvons manger ensemble, où nous pouvons passer du temps ensemble. Ça fait partie de qui nous sommes. Et même si aujourd'hui, dans notre contexte, aujourd'hui, parisien, c'est vrai que nous avons dimanche comme jour de repos. Nous n'avons pas à travailler. Nous pouvons juste venir le matin et puis prendre son déjeuner ailleurs. C'est vrai que notre vie est radicalement différente que celle des gens de l'époque. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que de temps en temps on mange ensemble? Justement parce que ça fait partie de l'Église et Dieu peut faire un travail en nous. Il peut même nous utiliser vos dons et il peut nous aider à s'édifier les uns les autres. Parlons justement de notre contexte et pourquoi nous avons besoin de ce genre de choses, de ces moments ensemble, en famille si vous voulez, même le petit moment dans l'église où on se serre la main, on dit bonjour. On a besoin de ça aussi. Et la raison, c'est parce que ici, dans notre contexte, vous connaissez tous, il y a cette isolation parisienne, voire francilienne. J'ai cherché des chiffres et j'ai trouvé sur CNews, le francilien moyen met presque 2 heures par jour en transport. Alors, le temps en transport, c'est jamais un temps très très joyeux, surtout aux heures de pointe. Et bon, quand on passe ce temps, justement, jour après jour, ça épuise. Eh bien, il faut dire qu'on fait ça pour arriver au travail. Et donc, on travaille. Et puis, on rentre. Eh bien, bon, j'ai pas à vous dire. Vous savez à quel point que la fin de la journée est fatigante. C'est très fatigant. Et puis, on arrive et on veut faire du bien, mais deuxièmement, on a aussi notre société laïque. La laïcité est une chose qui, bien que le monde protestant était un des premiers vraiment à mettre ça en place, parce que c'était important dans le protestantisme d'avoir ça dans la société. Donc on n'est pas en train de remettre ça en question. Par contre, il faut admettre aussi que dans une société où parfois on n'a même pas le droit d'évoquer le nom de celui qu'on aime le plus, et ça aussi peut être très fatigant finalement. Donc avec ces différents facteurs, on arrive et on peut arriver notre jour du dimanche très à sec spirituellement. Et même si vous vivez seul, même de manière affective. Parfois, même juste toucher les mains, donner la bise, juste dire bonjour, avoir ce moment, franchement, c'est important. C'est important pour moi. Et moi, je suis entouré de 4 enfants. Mais, et une belle femme aussi. Et, bien sûr. Sans moi, il ne peut pas avoir l'autre. OK. Donc, vous comprenez ce que je voulais dire. On a besoin de ça. On a besoin de ça physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Et dû aussi cette très fameuse exhortation en Hébreux 10, verset 25, de ne pas abandonner donc le culte. Donc l'importance de venir donc et de profiter de ce moment, c'est bien pour nous. Alors, j'aimerais revenir vers le texte parce que ce que Paul propose, en fait, comme solution, il remet les choses sur les bons rails, on dit en anglais, on met sur les bons bon, rail, je ne pense pas que ça se dit en français, mais je pense que vous comprenez. On le met sur la bonne voie. Et la bonne voie, en fait, repose sur l'Évangile. Et, comme je vous ai dit, à la fin de ces soirées, souvent, on partageait la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? Parce que Jésus, la nuit avant sa crucifixion, il a donné ça aux apôtres. Donc, pour nous, pour l'Église. Et quel est le contexte de cela? Le contexte, c'est une grande fête familiale juive qui est la fête de Pâques. Alors, Pâques, c'est déjà un temps où on a fait ça justement au CDR, où on a vu tout ce qui est chrétien. Donc on s'assoit à table, on boit ensemble, on mange ensemble, il y a des rites, il y a des partages, il y a des choses pour les enfants. En fait, c'est très très enrichissant. Mais Jésus a pris l'essentiel de cette fête familiale et il l'a appliqué à lui-même, son œuvre et son alliance. Alors, c'est ça ce qui est devenu un point très important. Et donc, ce que Paul veut dire maintenant, c'est attention, ce que vous célébrez est très important. Il est saint, c'est la sainte scène. Et ce mot n'est pas juste là pour décoration, c'est important. En fait, on n'utilise pas ce mot très souvent dans le monde protestant évangélique, un peu plus dans le monde protestant et encore plus dans le monde catholique, le mot de sacrement. Alors, qu'est-ce que c'est un sacrement ? En fait, un sacrement, c'est Calvin qui, j'aime bien sa définition, en fait, c'est un symbole ou un acte physique donné par l'Écriture, donné à l'Église pour symboliser une réalité spirituelle en Christ. Donc, c'est un acte, un symbole physique qui est dans l'Écriture, qui est donné à l'Église pour symboliser une réalité spirituelle en Christ. Dans le monde protestant, on n'a que deux sacrements. On a le baptême. Le baptême qui est le moment où nous croyons et nous sommes plongés dans l'eau et nous revenons à la surface dans l'image de Jésus parce que ça représente que nous sommes morts avec Christ et que nous vivons, nous sommes ressuscités avec lui dans les lieux célestes. Donc c'est notre alliance, on appartient à Christ et on marche dans ses voies. La Sainte Cène est très proche, c'est en fait, on se rappelle de ce qui s'est passé et on va voir ça plus en détail. Mais c'est plutôt la continuation de notre marche dans la Nouvelle Alliance. Bon. Ça va? C'était pas trop technique. Je suis désolé, parfois. Oui, ok. Ok, avançons. Peut-être ça serait peut-être une des premières questions. Donc, surtout si j'utilise un mot un peu, enfin, trop anglophone ou trop technique. Merci de mettre. Alors, avançons. Première chose, première partie dans tout cela. C'est la partie du pain, verset 19. Verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, première chose, et c'est là où on se distingue entre le monde catholique et aussi peut-être les luthériens et puis le reste du protestantisme où on se trouve. Alors, dans le catholicisme, c'est ça en fait la messe. C'est qu'au moment où ils partagent donc, le pain et la coupe, il y a cette... je ne vais pas utiliser le mot technique, mais... Je vais juste décrire, en fait, ce qu'ils attendent, c'est que le pain devient réellement Christ. Et donc, ce que le prêtre fait, c'est donc une nouvelle sacrifice de Christ, et c'est pour ça que c'est lui qui donne tout et qui doit consommer tout ce qui reste après. Alors, la réforme a vraiment joué sur cela, et tout simplement parce que, comme il est répété plusieurs fois dans l'Écriture, Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes. Donc, en tant que protestant, enfin même en tant que chrétien, on a du mal justement à accepter le fait que Christ entre dans ce pain et cette coupe et qu'il soit crucifié à nouveau. Voilà. Ensuite, donc, les luthériens, et ils croient que Christ est physiquement présent dans le pain. Donc, c'est-à-dire, il y a donc une chose spirituelle qui se passe, qui, en fait, il est partout et donc son corps est physiquement présent quand on le mange. Alors, le grand problème avec ceci, c'est que il y a pas des versets clairs qui soutiennent ce point de vue. Et aussi, surtout du fait que Jésus est clairement ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père. Alors, donc, le reste du monde protestant prend plutôt l'idée que Jésus a dit « Prends ceci en mémoire de moi ». C'est-à-dire que ce sont des symboles. On prend un véritable bout de pain et qui demeure un bout de pain, mais on le prend en mémoire de lui. Et même la coupe. Alors, bon, avec ceci, quand même, même Calvin, et moi j'y crois fort aussi dans cela, a quand même parlé d'un échange spirituel. Et c'est pour ça que je me tiens toujours à ce mot communion, qu'on utilise en anglais, on parle de la Sainte Communion. Parce que quelque part, il y a une communion qu'on a avec Christ. On est rassemblés en son nom. On se rappelle de ce qu'il a fait. Et donc, justement, prendre ce pain qui représente son corps brisé pour nous, fait que, d'une manière pénale, enfin, c'est moi qui a mérité cette mort, c'est moi qui a mérité cette condamnation de Dieu à cause de mes propres péchés, mais c'est Jésus qui a pris à ma place. Alors quand je prends ce pain, c'est quelque chose même de physique que je fais, je mange, j'avale, mais il y a cette mémoire et puis quelque chose de spirituel qui se passe. Communion, si vous voulez. Puis, il dit, en ce qui concerne la coupe, verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc là, nous entrons vraiment dans cette pratique du sacrement. C'est en rappel de l'alliance. Je vous rappelle qu'une alliance, ce n'est pas un contrat. D'abord, on signe un contrat. Mais une alliance, dans le langage biblique, on coupe. Donc, avec un couteau, on coupe une alliance. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un sacrifice avec chaque alliance. Hein, ça fait partie de cela. Jésus qui parle, donc, il est donc le chef de l'alliance parce qu'il a donné sa propre vie. Donc, la coupe représente son sang. On ne croit pas que c'est vraiment son sang. Mais c'est, en fait, un rappel de cela que... Voyez, toutes nos œuvres, toutes les bonnes choses qu'on fait ne suffisent pas pour la mérite, enfin, l'acceptation, l'approbation de Dieu. Mais dans son immense grâce, c'est lui qui a tout fait pour nous et puis qui nous invite maintenant à marcher avec lui. Voyez, quand on prend la Sainte Cène, c'est un privilège. C'est un rappel aussi de se rappeler de ce qu'il a fait. Nous, en tant qu'Église, nous n'obligeons pas que les gens soient membres de cette Église pour prendre la Sainte Cène. Mais nous demandons que ces recommandations, cette examination, ce sérieux et cette révérence soient faites. Parce que c'est un moment spirituel et c'est important pour nous. Pourquoi est-ce que nous, c'est le grand sujet, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Église, nous prenons la Sainte Cène semaine après semaine? Parce que, comme il est dit ici, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans ma vie spirituelle, j'ai besoin même de prêcher l'évangile à moi-même. Parce que Sinon, je vais oublier les choses. Je deviens facilement arrogant, peut-être l'irrité par ce qui arrive dans la vie. Ou, enfin, mes péchés vont m'envelopper. Ça. J'ai besoin de prêcher l'évangile à moi-même. Mais ça, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Quand nous réunissons ensemble, il y a aussi cette nécessité, je trouve aussi. Il y a quelque chose là où deux, trois sont rassemblés en son nom. Il est là et ça fait du bien. On ne fait pas comme un rite. Et là, en tant que pasteur, j'avoue que si ça devient quelque chose comme rituel où c'est perdre le sens, je dirais il vaut mieux de ne pas le prendre tous les semaines. Parce que c'est plus que ça. C'est un rappel. On revient à la croix. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? On fait ça pour que ça ne devienne jamais juste un simple rite. Mais qu'avec le sens, toujours là, devant les yeux, dans le cœur, pour que ça soit toujours fait de la meilleure manière. Parce que on va avancer dans le passage et il y a une culpabilité. Il y a effectivement donc un tort, une erreur, donc à prendre d'une mauvaise manière, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment que nous gardions ça à l'esprit. Que nous gardions ça vraiment au fond du cœur. Manger indignement, c'est manger sans révérence. Manger indignement, c'est faire le simple geste sans y penser. Ça, c'est pourquoi. On a toujours une chanson qui nous fait rappeler de la croix parce que, en tant que moderne, souvent les pensées flottent dans tous les sens. On a besoin d'être encadré, ça aide. Mais manger indignement aussi, c'est manger avec arrogance. Ça, c'est pourquoi il est important, je trouve, de faire ce moment même de s'examination, où je m'examine. Parfois, le Seigneur peut, parfois, beaucoup de fois, même, il me montre des choses que je fais, que je n'ai pas fait, des péchés, même l'attitude du cœur qui ne va pas. C'est en fait un moment propice, justement, de confesser, mettre ces choses aux pieds de Jésus. C'est lui qui est fidèle et juste, qui pardonne tous ceux qui confessent. Et c'est un moment pour nous. Et c'est là aussi, cette communion. C'est pas juste quelque chose de physique qu'on fait. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est spirituel dans le sens. C'est même une occasion pour vous vraiment de mettre tout à plat si vous ne l'avez pas encore fait. Et juste recevez ce pardon, même célébrez ce qui a fait notre pardon. C'est hyper enrichissant pour nous. Et donc, c'est vraiment un moment privilégié. Alors, j'aimerais juste ajouter une autre chose parce que dans cela, très souvent, on entend deux choses. La première, c'est souvent les gens... Oui, des années, j'ai vu. Ils ne prennent pas la Sainte Seine parce que, ils ressentent la condamnation. Ils ressentent, ils sont en train de s'examiner, ils savent qu'ils sont, ils sont indignes, ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, et leur cœur est vraiment brisé, et ils disent, non, je ne peux pas, je suis indigne. Alors, le gros problème avec ceci, c'est que nous sommes tous indignes. Jésus est mort sur la croix pour nous tous. Pour cette personne, j'ai vraiment envie de dire, attention, ne soyez pas comme cette lampe. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus, il est mort pour soi. Et il veut vous restaurer. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune. Donc, il vous accueille. Bon. Évidemment, peut-être il va falloir changer des choses dans votre vie. Là, je suis d'accord. Mais il va vraiment appuyer sur l'aide du Saint-Esprit qui va vous aider à surmonter certaines choses. Ok, oui. Mais rester à l'écart du repas du Seigneur, non. Venez. Et profitez de ce temps. Deuxième chose aussi. Et ça, je vois ça comme quelque chose qui me perturbe un peu plus. C'est en Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, ce qu'il est dit, c'est que si tu es là et tu prends, et puis tu te rends compte que tu as offensé quelqu'un d'autre, ben là, oui, il faut mieux quand même que tu réconcilies avec cette personne. Bon, si tu as essayé et tu as déjà répandu, tu as déjà présenté tes excuses et ben, ils ne veulent pas, bon, ils ne veulent pas, bon, c'est pas votre faute. Mais, ben, l'idée, c'est quand même, si vous avez fait quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est là où il faut vraiment réconcilier. Parce que, en ce qui concerne la communion fraternelle, bah, c'est une famille. Hein, on est appelé à vivre ensemble tant que nous le pouvons. Mais, dans la pratique, souvent, j'ai entendu prêcher, que je trouve qui n'est pas juste, c'est l'idée que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Et donc, parce qu'il y a ça, donc, avant que je prenne la Sainte-Seine, je vais t'en parler, mon cher frère. Alors là, non. C'est pas la même chose. C'est pas ce que dit le passage. Oui, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir en privé. Va le voir. Ça, c'est important. Ça, c'est normal. Mais attention à cette idée-là qui, parfois, crée en fait beaucoup plus de petits drames et de divisions dans l'Église que ça réconcilie. Mais, surtout, si vous savez que vous avez offensé quelqu'un, bah, soyez le premier à le dire. C'est juste ce que Jésus est en train de nous dire. Et si on faisait ça, imaginons justement tous les torts et toutes les blessures qui n'existeraient pas aujourd'hui. Bon. Ensuite, il donne quand même peut-être un des versets qui donne des frissons, quand même, parce que c'est très très grave. C'est verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et d'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais c'est par ses jugements le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est effrayant. Là, j'avoue, c'est absolument effrayant de dire, penser que, ouais, Dieu peut intervenir et que même dans cette église, apparemment, les choses sont allées aussi loin que, apparemment, il y avait même des malades et des gens qui sont même morts. Alors là, on prend ce qu'il est dit et je crois que ça serait même une erreur d'adoucir l'impact de ce qui est dit. Et je crois que c'est assez clair. Ça, c'est pourquoi encore, nous prenons ce temps. C'est sérieux. N'oublions pas que, oui, Jésus nous réconcilie. Mais revenir à cette idée de la justice de Dieu. La justice de Dieu est irréprochable. La justice de Dieu est à 100%. Enfin, même dans l'Ancien Testament, quand les gens ont vu les anges, ils se sont tombés à terre et ils pensaient pouvoir mourir. Mais comme il est dit en Hébreu 13, notre Dieu est un feu dévorant. Il est qu'il est, et c'est pour cela que cette grâce immense que nous avons en Jésus-Christ est si riche, et si tendre, et si merveilleux. Et donc, en tant que protestant évangélique, on ne veut jamais perdre vue de cela, parce qu'il est aussi vrai. Alors, quelles sont les recommandations? Ben, je vois trois. Première, c'est donc une considération pour les autres à l'image de Christ. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Donc, première chose, à l'image de Jésus, qui s'est donné lui-même, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est le principe. Et donc, la considération de l'autre, venir et vouloir bénir l'autre, c'est ça le véritable sens. Et ça, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que c'est à l'image de Christ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on revient, grand principe, c'est la révérence, l'admiration, la louange, l'adoration pour le Seigneur. Verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. C'est-à-dire que, si c'est juste une question de manger, c'est vrai, on peut manger chez lui, enfin, chez soi. On peut manger même en venant. On est quand même une église à la place Saint-Michel. Il y a des restos partout ici. Là, ça manque pas. Mais, pourquoi est-ce qu'on vient donc? On vient pour Jésus, on vient pour adorer. Et même dans ce temps de travail, de partage et de communion fraternelle, même si on est à table, on rigole, on joue des jeux comme on a fait la dernière fois, on fait des tresses, enfin, on est toujours, on fait des tresses pour le Seigneur, on fait tout pour le Seigneur. Il y a enfin, quand même une révérence. Dans ce qu'on fait. On est là pour lui. Et puis, dernièrement, c'est parce que tout s'encadre dans le nouveau commandement que Jésus nous a fait. Et pour cela, je vais quitter notre passage. Je vais en Jean chapitre 13, qui était aussi à la fin de cette soirée où il a instauré la Sainte Cène après que tout le monde a mangé. Il a lavé. Donc, vous connaissez cette histoire. Après qu'il a lavé les pieds et tout, Jésus commence à enseigner ses disciples et regardez ce qu'il dit vers verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le nouveau commandement. Et il nous a montré comment ça se fait. Bon, lui, il a lavé les pieds, mais bon, aujourd'hui, on a des chaussures, on a des chaussettes. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais nous pouvons laver les pieds les uns les autres, priant les uns pour les autres. En célébrant les victoires les uns les autres, en pleurant avec quelqu'un, en partageant ce que le Seigneur a fait. On se réunit donc pour avancer dans le Seigneur. Et c'est ça ce qui est fort. Le monde saura que nous sommes ses disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres. C'est fort ça. C'est que tous ceux qui marchent dehors, lorsqu'ils regardent par nos portes, Et il voit donc des gens qui s'aiment, surtout des gens qui viennent évidemment des différents endroits, des différentes même nations, et qui sont réunis pour Christ. C'est très, très attirant. C'est un signe pour eux que Christ est réel. D'ailleurs, le contraire, il n'y a rien qui repousse les non-croyants et surtout les athées qu'une église qui se déchire, et il y a beaucoup de divisions. Hein. Et ça se voit très clairement. Donc Jésus nous a déjà prévenus dans ce sens. Et je crois que si vous êtes comme moi, au fond même de notre âme, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche aussi. Et donc, c'est pour cela que, honnêtement, chaque fois que nous nous réunissons, c'est encore une autre occasion vraiment de le mettre en pratique, de même profiter de ce don, je dirais don de Dieu, qui est la communion fraternelle, et aussi de venir et de prendre le pain et la coupe. Donc, on aurait dû terminer là et se mettre à table et manger ensemble. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et on va prendre la Sainte Cène ensemble.